Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver avec un tout petit peu de retard, hein, toutes nos excuses. Donc en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end, on va pouvoir donc naturellement en parler. On reviendra sur le point foot avec notre ami Stéphane Desenclos. Donc dans la dernière partie de cette émission, entre 20h et 20h30, on parlera notamment des éliminations sombrio du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. On va aussi parler de la médaille. Je salue d'ailleurs Vanessa qui est à notre côté, de la flamme olympique et des médailles aussi. Hein.
Bonjour, bonsoir Philippe. Vanessa. Bonjour à tous.
Ouais, la flamme, elle suit tout chaque jour et elle était donc bien au courant de la venue de la flamme à Marseille. C'était donc mercredi.
Tout à fait. Hein, donc, et jeudi.
Tu vas nous en parler plus particulièrement. Et puis, on va aussi aujourd'hui parler un peu de l'Institut Gustave Roussy avec Daphné Rubin, que je salue. Bonsoir, Daphné.
Bonsoir.
Oui, alors, je vous ai invité parce que votre institut fait énormément de choses pour le sport.
Tout à fait. Hein on sera présent notamment lors d'une course qui a lieu le 26 mai prochain à l'Adidas Paris 10K. Et on est aussi partenaire du programme Dossard Solidaire qui regroupe à la fois le semi-marathon, le marathon de Paris et du coup l'Adidas 10K.
Et en préparant cette émission, j'ai vu que vous aviez tout plein d'autres événements sportifs auxquels vous avez participé dans le passé. Donc, on en reparlera un peu et on essaiera de savoir comment donc cet argent et à quoi ça sert. On s'en doute un peu, mais enfin, comment il est donc collecté. Et puis, c'est un peu la tradition de cette émission. On va faire découvrir les sports dont on ne parle pas très souvent. On va parler frisbee aujourd'hui. Alors, on dit frisbee, ultimate ou alors flying disc. Eh bien, on va le savoir avec nos invités. Déjà, Maëva Koussi, que je salue. Bonsoir, Maëva.
Bonsoir.
Oui, membre de l'équipe de France.
Oui, c'est ça, ouais. Membre de l'équipe de France. Ouais. J'ai été en junior et là, maintenant, je suis en senior.
Vous êtes donc membre de Paris, c'est ça?
Oui, c'est ça. Et sinon, à côté, je suis licenciée au PUC, Paris.
Ah ouais, célèbre club, ouais. Pourquoi le frisbee?
Pourquoi le frisbee? C'est arrivé au collège où j'avais ma professeure de PS en 5e qui, avec le club de la ville, était championne d'Europe des clubs. Du coup, voilà, elle nous en a fait faire en cours et j'ai découvert comme ça. À l'époque, je faisais déjà tout plein d'autres choses à côté, donc je n'ai pas commencé tout de suite. Et c'est au lycée où je me suis décidée et du moment où j'ai essayé, je suis jamais repartie.
D'accord, ok. Donc ça fait combien d'années maintenant
de licence? Là, ça doit faire 8 ans, je crois.
D'accord,
que je joue maintenant.
Déjà.
Ouais, quelque chose comme ça, 8-9 ans, je crois.
Très bien. Allez, Benjamin Bourdon, le président, j'allais dire du comité, c'est ça, hein, du comité de Paris, hein?
Oui, bonsoir, tout à
fait. Oui, bonsoir Benjamin. Ouais. Comment c'est venu le frisbee dans votre vie?
Comme Maëva, je l'ai connu au collège et puis j'ai eu la bonne chance de pouvoir m'y remettre en arrivant à Paris après mes études, d'un bon sport qui a la chance d'être mixte, avec des valeurs très différentes d'autres sports collectifs, donc j'y suis venu et j'y suis resté.
D'accord. Et puis Antonin, c'est ça, Antonin Perrier. Bonsoir Antonin.
Bonsoir.
Ouais. Vous, c'est arrivé comment, le frisbee?
Moi, c'est un peu une tradition familiale. Oui. Mon père joue depuis un certain nombre d'années déjà. Il faisait partie vraiment des premiers joueurs en France quand à l'époque, il n'y avait qu'un seul club ultimate. Et donc, je lance un frisbee depuis tout petit et de le suivre un peu sur les compétitions. Tout d'abord, dans le club ultimate dans lequel il jouait. Et puis, je suis là aussi pour intervenir pour le disc golf, parce qu'il y a aussi d'autres sports de frisbee.
Oui, alors justement, on dit frisbee, ultimate ou disc flying. C'est quoi? C'est quoi les quelques différences?
Le frisbee, c'est le moyen, c'est le support.
Ouais.
Et après, il y a plusieurs sports qui se passent avec un frisbee. Donc, il y a l'Ultimate Frisbee qui est le sport collectif dans lequel je suis dans la même équipe que Maëva, le PUC Ultimate. Mm-hmm. Et après, il y a d'autres disciplines individuelles, notamment le disc golf, sur laquelle je pratique aussi à côté.
Ce sont des disciplines individuelles, quoi, les différences?
C'est deux sports différents, mais qui se pratiquent avec un frisbee.
D'accord. Il y a combien de clubs sur Paris?
Alors sur Paris et Intramuros, actuellement, il y a 3 clubs.
Oui.
Deux principaux qui sont donc le PUC, il s'est présenté par Antonin et Maëva. Mm-hmm. Il y a également un autre club, disons historique, qui est assez ancien, qui est les Révolutionnaires, dans le nord de Paris, dans le 18e. Et le dernier club plus récent, qui s'est créé il y a quelques années, parce que du coup, en fait, il y a tellement de demandes qu'il faut créer des nouveaux clubs, qui s'est créé dans le 17e, qui s'appelle l'UTES Ultimate.
D'accord, ok. Le PUC, donc, c'est une institution, hein, au PUC, le frisbee?
Oui, oui, bah, nous on a la chance.
C'est un sport important, c'est ce que je veux
c'est
dire.
Un, c'est ouais. un sport important, ouais, ouais, c'est un sport important. Nous, je pense que le PUC Ultimate, on est un des plus gros clubs de France avec un peu plus de 200 licenciés.
Ah oui, oui.
Donc voilà, on est, c'est assez gros, c'est bien représenté au PUC Paris. Et puis on a la chance de bénéficier aussi de la structure du PUC. Mmh. Donc voilà, c'est
très sympa. Vous pratiquez votre sport où? Sur les terrains de foot, sur les terrains
ouais.
de rugby sur...
on est à Charletti. Un...
Oui.
Du coup, voilà, donc on pratique à Charletti. On a pas mal de créneaux d'ailleurs, si certains et certaines sont intéressés.
Ah, bah oui, bah venez voir les entraînements.
Ouais, ouais, on peut s'entraîner. Donc il y a des entraînements féminins, des entraînements mixtes, des entraînements masculins. Il y a aussi des entraînements juniors et débutants. Mmh. Voilà, donc là c'est un peu divisé sur toute la semaine. Donc ça, on a des entraînements les lundis soirs, mardi soir, jeudi soir et samedi matin.
D'accord.
Voilà, s'il y en a qui sont intéressés. Ouais.
Et Benjamin, il y a une fédération française à part entière.
Et oui, tout à fait. C'est une fédération qui a du coup... en fait, le sport est arrivé dans les années 80 en France, pour simplifier. Et depuis,
c'est un sport qui vient d'où? D'Australie, des USA?
Des USA, des universités ouais. Américaines où on lançait des fameux plats à tarte dans les campus américains.
Ah ouais,
les fameux,
c'est venu comme ça?
Oui, ouais. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, on a la chance d'avoir une fédération qui se structure énormément en France, qui est du coup maintenant une fédération française, reconnue par le ministère des Sports, qui est pas loin d'ici, qui a la chance d'être reconnue même sport de haut niveau. Enfin, voilà, c'est quelque chose qui se développe très, très vite et qui a la chance d'avoir un soutien.
Donc, combien de clubs licenciés en tout en France?
Alors, aujourd'hui, en France, on a dépassé les 6000 licenciés à l'instant T.
Oui, oui.
Donc là, ça parle seulement des personnes qui pratiquent en club. Évidemment, il y a plein d'autres personnes qui pratiquent dans les parcs, qui pratiquent en loisirs hors des clubs, pour en tout entre 100 et maintenant sans doute pas loin des 150 structures en France.
D'accord. Mais bon, la région parisienne et Paris, c'est le joyau le plus important, non?
Ah ben, on a toujours envie de se dire ça, oui. Oui. Après, il y a effectivement un gros pôle en Ile-de-France. On a la chance d'avoir plusieurs dizaines de clubs en Ile-de-France. Mm-hmm. Maintenant, c'est-à-dire qu'on a aussi un grand pôle dans les Pays de la Loire. Voilà, historiquement, c'est aussi un endroit très fort de pratique de sports de flying disc. Voilà, ça c'est disparaître sur les territoires, mais évidemment Paris, voilà, ça reste
quelles sont les règles de votre sport? Voilà, parce qu'on parlait donc des particularités, hein. C'est d'abord avant tout un sport collectif, il y a aussi donc des compétitions individuelles. Quelles sont les principales règles? Bon, moi je le sais, j'ai préparé l'émission, hein, mais vous allez le dire.
Alors,
c'est un sport sans contact, il faut dire d'abord.
Oui, alors déjà, c'est la précision que dans le flying disc, il y a donc plusieurs disciplines. On en parlera sans doute d'autres, mais là, on va parler de l'ultimate frisbee, qui est donc le sport collectif. Dans sa version extérieure, on pratique sur un terrain général de foot. Donc, on garde sa longueur de 100 mètres de long.
D'accord.
On réduit un peu sa largeur, mais voilà, en tout cas, ça fait un ordre d'idée. Le principe du sport est que donc on va faire des passes avec ce fameux disque, le frisbee. L'idée étant qu'une fois qu'on a le disque en main, on
alors,
ne peut plus
dépasser. Alors, il est comment
le
disque? Il est en plastique toujours?
Alors, il est en plastique, tout à fait. Il fait à peu près il fait 170 grammes environ. Ah,
comme une assiette, quoi.
Et exactement. Ouais. En fait, c'est une grande assiette. Ouais, voilà. En taille de taille, c'est une grande assiette pour l'ultimate, avec des rebords assez hauts, et donc ce qui permet une bonne prise en main et le lancer assez loin. Des gens comme Antonin peuvent le lancer sans doute à 100 mètres, voilà, ça, en plus, voilà, oui, voilà, très bien. Donc vous imaginez, tu fais des boules lancées. Et donc une fois qu'on a le disque en main, on ne peut pas se déplacer avec, il faut donc faire des passes pour avancer sur le terrain, et l'idée étant de marquer des points en attrapant ce disque dans des zones d'embûts situées au bout du terrain, un peu comme vous auriez des zones d'embûts au rugby.
Ouais, c'est ça, il faut passer la ligne de l'adversaire, quoi.
Exactement, il faut la passer et attraper le disque à l'intérieur.
Mais alors, j'ai lu que vous n'aviez pas droit de marcher.
Et non, c'est ça. Oui. Une fois qu'on a attrapé ce disque, on doit s'arrêter le plus possible. Et à partir de ce moment-là, on a le droit à un pivot, comme dans d'autres sports, mais pas plus. Il faut donc faire une passe.
Ça dure combien de temps, les matchs?
Alors là, c'est très variable selon le niveau auquel vous pratiquez. Aussi là, si vous jouez en intérieur, en extérieur. Mais disons que ça peut aller de 25 minutes pour vraiment les versions gentilles à très vite 100 à 120 minutes en compétition et notamment au plus haut niveau que peut vivre Maïva.
C'est-à-dire qu'on adapte, il n'y a pas des règles, on adapte le temps, comment ça se passe?
Si je peux me permettre, ça dépend le format en fait des compétitions.
Voilà. Non, parce que l'auditeur et l'auditrice, ils veulent tout savoir.
Mais vous allez tout savoir. Du coup, oui, ça dépend le format des compétitions. Pour les compétitions de plus haut niveau, sur un format standard, on va être sur un match effectivement de 90 minutes. Donc en fait,
90 minutes.
Ouais, avec demi-temps de 45 minutes.
Donc comme le foot, quoi.
Exactement, comme le foot. Donc voilà, ça reste. En fait, c'est vraiment un sport collectif d'opposition comme tous les autres sports qui puissent exister, sauf que au lieu d'avoir une balle, on a un disque.
Et vous êtes combien par équipe?
Par équipe, sur le terrain, on va jouer en 7 contre 7. Mais après, on va, par exemple, quand on part en compétition sur un week-end, on va plutôt être sur un roster de environ 18 personnes, on va dire.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a un turnover, quoi.
Ouais, exactement. Ouais. En fait, à chaque fois qu'on a marqué un point, on change la ligne. Donc souvent, en fait, les rôles sont un peu différenciés entre la ligne d'attaque et la ligne de défense.
Ça, c'est d'obligation. Ce n'est pas le coach qui décide de changer, de faire le coaching
Le coach peut décider s'il veut de faire rentrer les 7 mêmes joueurs tout du long, mais je vous avoue, 90 minutes sans sortir une seule fois, c'est très compliqué. Oui, souvent, au bout de d'un point, deux points, on peut enchaîner trois, vraiment, si besoin, mais c'est très intense. Et c'est ça qui est cool dans ce sport, c'est que c'est à la fois un sport d'endurance, parce que du coup, il faut tenir les 90 minutes, mais aussi un sport où on a besoin d'être très explosif, puisque du coup, on a une défense sur nous, et il faut qu'on arrive à se démarquer de cette défense pour pouvoir se rendre disponible pour faire la continuité et faire progresser le disque.
Ouais, alors, j'imagine le cardio, quoi.
Exactement.
C'est ça que vous travaillez en priorité dans les entraînements, les déplacements, les mouvements, parce qu'il faut être hyper rapide. Hein. C'est ce qui fait peut-être la différence.
Exactement. Non, faut avoir. C'est sûr qu'il faut travailler son cardio. Il faut avoir un bon cardio. Et après, on travaille beaucoup l'explosivité. On dit ça du footwork. Donc en gros, la façon dont on se déplace sur le terrain et on arrive à se démarquer en fait de notre défense par des jeux de jambes, etc. Mais on va travailler sur ça. Et après, donc comme je disais, c'est un sport complet, donc endurance, explosivité. Et après, il y a aussi la partie technique, puisque bien sûr, il faut savoir réaliser les passes le plus parfaitement possible. Et là, il y a différents types de passes. Et après, la partie un peu plus tactique, où on va mettre en place un peu, comme par exemple le foot US, des tactiques pour progresser.
Ouais. Est-ce que, justement, le côté tactique est très important ?
C'est un aspect non négligeable, souvent. Je pense qu'il y a pas mal d'équipes qui passent un peu à travers et qui négligent cet aspect.
Ils pensent plus l'emporter sur leur physique, sur leur...
Ou peut-être sur des aspects individuels. Oui. Et je pense que Maëva vient d'en parler, parce que nous, cette année, dans notre équipe, on l'a beaucoup travaillé sur l'aspect tactique. Ouais. Et ça nous a permis cette année justement de gagner plus de matchs. Et on l'a senti avec les coéquipiers, on se trouvait plus facilement, on arrivait plus facilement à jouer des espaces qui étaient libres, des choses qu'on n'arrivait pas à faire l'année dernière, où on avait tendance un peu à pas respecter nos différents appels dans le jeu. Et le fait de l'avoir beaucoup travaillé cette année nous a permis d'aller plus loin. Donc c'est aussi important, à mon sens, que l'aspect physique et l'aspect technique, je dirais que c'est 33% pour
arriver
à une bonne équipe.
Est-ce qu'il y a des postes définis quand vous jouez, quand vous commencez à pratiquer ce sport,
on se spécialise un petit peu. Bon, après, quand on commence, effectivement, c'est toujours bien de toucher à tout. On a donc, comme je vous disais, il y a des profils qui sont plus orientés défense, des profils qui sont plus orientés attaque. Et après, dans ces profils-là, on a ce qu'on appelle les handlers et les middle ou cutter.
Ouais, ouais.
Donc, en fait, les handlers, ça va être les personnes qui vont distribuer le jeu. Donc souvent, c'est des personnes qui sont vraiment très techniques et qui ont une très bonne maîtrise du disque.
Ouais, bon, les numéros 10 au foot, quoi.
Voilà, exactement. Et après, vous avez donc les middle ou cutter qui, eux, vont être des personnes plutôt physiques et qui vont s'affairer à faire la continuité en fait, du jeu.
D'accord. Et ça, on se spécialise. On ne peut pas interchanger les postes en fonction des matchs ou le coach peut le faire.
Souvent, ça dépend des équipes. Souvent, par exemple, pour donner mon expérience personnelle, j'évolue cette année en équipe de France.
Oui.
En équipe de France, j'ai été assignée du coup plutôt cutter d'attaque. Et c'est vraiment un poste que je vais garder tout du long de l'année. Là, c'est le poste que j'ai aussi également au PUC Paris. Mais par exemple, dans mes années précédentes, j'ai été un cutter, mais plutôt défensif. Donc en fait, ça dépend en fonction des saisons et des profils et nous, de notre évolution personnelle et sportive.
Ouais.
Mais effectivement, une fois qu'on a été assigné à un poste, souvent, on le garde pour la saison parce que ça fait plus sens. Et c'est là où on va pouvoir vraiment se développer dans ce poste-là et forcément progresser et performer.
Et quand on commence le sport, il y a un profil type. C'est-à-dire, si on fait, je ne sais pas moi, 1m60, 55 kilos, est-ce qu'on est prédisposé pour un autre poste par rapport à quelqu'un qui fait 80 kilos
qui est assez récent. Donc, je pense que, par exemple, moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas forcément de profil type et on pouvait voir des gens un peu de toutes les morphologies, toutes les tailles, etc., pratiquer ce sport-là. Après, c'est vrai que là, on se professionnalise de plus en plus. Donc, on va voir que, effectivement, la nature fait que quand on fait 1m80, c'est plus facile de catcher des disques qui sont hauts par rapport à des gens qui sont plus petits. Mais c'est un sport sport collectif qui, justement, je trouve, déjà est mixte. Donc on...
Oui, alors j'ai posé la question.
On peut voilà, ouais, jouer
comme il n'y a pas filles... de contact, c'est plus facile. Quoi.
Et oui, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Ah. Donc filles et garçons, ouais. mais c'est aussi un sport qui, je trouve, par la façon dont c'est joué, permet d'avoir vraiment une typologie de profils très différents. Donc par exemple, si on est moins rapide, bah, on va plutôt avoir un profil peut-être handler et plus travailler la technique. Et du coup, ça permet vraiment d'inclure tout le monde. D'accord. Donc, c'est ça qui est top.
Ouais. Et donc, il y a des équipements requis
Bah, je trouve que c'est un sport qui est quand même assez accessible. Oui, il vous faut des crampons.
Ouais. Et à part ça... C'est des chaussures particulières ou on peut prendre des chaussures de foot, de rugby?
Là, il y a des marques de crampons d'Ultimate qui apparaissent depuis quelques années. Donc, il y en a spécifiquement designés, on va dire, pour ce sport. Mais sinon, moi, je vous avoue, là, j'ai des crampons Nike de foot.
D'accord.
Et ça fait très bien l'affaire. Il y en a qui prennent des crampons de lacrosse, de foot US, mais vu qu'on est sur le même type de surface, on reste
après,
sur ça.
Après, short classique, maillot du club.
Voilà, c'est ça, la tenue officielle du club, la brassière pour les filles, et voilà.
Est-ce qu'il y a un numéro particulier, puis votre nom?
Oui, c'est ça. Donc moi, je suis le numéro 47, par
47,
exemple.
47, d'accord.
Avec le nom, mon nom, du coup, Koussi, à l'arrière.
Et vous êtes donc en équipe de France, ça fait combien de temps?
C'est ça. Là, j'ai fait... deux ans en junior, en U20. Donc, j'étais en équipe de France junior en 2016 et 2017, si je ne dis pas de bêtises. En 2019, j'ai fait l'équipe de France mixte U24. Et l'an dernier, j'ai fait l'équipe de France mixte beach, donc sur plage, parce que ça peut aussi se jouer sur plage.
Ah oui, d'accord.
Avec laquelle on a réalisé un petit exploit, pour tout vous dire, puisqu'on est champion du monde. Oui.
On a une championne
donc
du
c'était,
monde.
C'était l'an dernier, il y a quelques mois, sur les plages de Los Angeles.
On vous reconnaît dans les rues, là, quand vous êtes venu.
Pas encore, pas encore.
Studio, dans le métro, là, tiens, c'est la championne du monde de
Non. mais du coup, voilà, donc ça, c'était l'an dernier. Donc là, j'ai renchaîné cette année avec, du coup, l'équipe de France féminine. Mais en outdoor, donc le terrain plus classique, on va dire.
D'accord. Donc une saison, elle dure de septembre à juillet, c'est ça?
C'est à peu près ça. Ouais. Pour les saisons équipe de France, on commence les sélections novembre, on va dire. Octobre-novembre. Et après, les sélections sont annoncées début d'année. Et à partir de là, on commence le travail. Et là, ce qui va m'amener jusqu'en fin août, début septembre, pour le championnat du monde d'Ultimate en Australie.
En Australie?
Ouais.
C'est dommage qu'il y ait les Jeux, parce que c'est au Australie. Justement, sportif de haut niveau, c'est votre statut. Comment on le vit quand on est dans le frisbee?
Ouais, c'est
qu'on a des aides? Comment ça se passe?
Je travaille. C'est un statut qui est un petit peu compliqué qu'effectivement, on a le statut, fait qu'on est sportif et sportif de haut niveau.
Fatalement.
Mais dans la réalité, on bénéficie pas d'infrastructures et de soutien financier qui suivent. Donc effectivement, je travaille à côté. Je suis chef de projet dans une agence créative. Je travaille beaucoup et je fais depuis que j'ai commencé l'Ultimate, j'ai toujours eu des petits boulots à côté pour pouvoir me financer mes saisons.
Bah ouais.
Parce que c'est des saisons qu'on finance seule. La fédération nous aide, mais c'est pas, n'a pas les moyens de subvenir à l'entièreté du budget qu'on doit allouer pour ça. Donc là, pour vous donner un ordre d'exemple, pour ma saison en Australie, je dois compter environ 5000 euros à sortir de ma poche. Pour pouvoir partir faire les championnats du monde.
D'accord.
Et justement, est-ce qu'il y a des sponsors, des marques qui commencent à s'intéresser à votre sport pour vous, c'est aussi un moyen de pouvoir subvenir
Je pense qu'on est au tout début encore. Est au tout début encore. Là, je vous avoue que nos premiers moyens de trouver de l'argent, c'est d'organiser des crowdfunding. On est devenus les pros de Hello Asso pour récupérer de l'argent un peu à droite à gauche. Et on
donc
essaye
effectivement... Donc ceux et celles qui nous écoutent ce soir, faut pas hésiter.
Voilà, n'hésitez pas. vraiment pas. Mais non, on essaye un peu à droite à gauche de rentrer en contact avec des entreprises privées, avec des marques, etc. Mais c'est un chemin qu'on débute tout juste et qui, j'espère, sera fructueux dans les prochaines années.
Oui. Alors, est-ce qu'un jour partir à l'étranger, c'est envisageable? Parce qu'il y a peut-être des pays où on peut en vivre, non?
Ouais, alors...
On parlait des Américains, des Australiens.
Oui, c'est ça. Vous avez une ligue professionnelle, effectivement, au Nord-Amérique, donc États-Unis et Canada. Il y a pas mal de personnes en France qui, quand elles ont envie de tenter leur chance un peu en pro, partent... partent là-bas pour jouer dans cette ligue-là. Après, c'est une ligue masculine, donc il n'y a pas encore de ligue professionnelle féminine.
Ouais.
Donc voilà.
Donc, peut-être un jour devenir une pionnière, quoi.
Hein peut-être faudrait qu'ils commencent le travail là-bas déjà, mais après là, il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Je sais qu'il y avait un projet la volonté en tout cas de créer une ligue professionnelle en Europe. Mais voilà, ça pour l'instant, ça n'a pas encore vu le jour parce que faute de moyens, faute de structure, etc.
Et une carrière, ça dure juste combien de temps?
Alors,
comme c'est intense quand même, comme c'est intense, on peut continuer à pratiquer ce sport à 40, 50 ans ou alors c'est plus du loisir? Sur la plage, par exemple.
Oui, tout à fait. Bah, typiquement, le week-end dernier, j'étais sur un tournoi sur sable. On a croisé l'équipe qu'on appelle les GGM, donc les Great Grandmasters,
ouais.
qui sont donc des gens qui vont effectivement dépasser bien les 40 ans, hein, pour le
ouais.
coup,
ouais.
Et qui, franchement, jouent encore très, très bien. Donc, c'est tout à fait possible. Après, évidemment, le sport, on a un sport qui évolue très vite. Donc, effectivement, au fur et à mesure, aujourd'hui, il est plus possible de trouver... de faire carrière en équipe senior classique à 45 ans, ça devient quelque chose qui n'existe plus. Pour autant, oui, on peut continuer à pratiquer très longtemps. Le plus ancien, enfin le plus âgé licencié, s'il m'écoute, actuellement d'Ultimate, a une soixantaine d'années.
D'accord.
Donc c'est tout à fait possible.
Mmh. Il va combien l'engin 2 km/h?
Alors 2 km/h pour les meilleurs du monde.
Il paraît que vous lancez 100 mètres. Alors.
Ça a été mesuré, ouais. si je me trompe pas, même je crois que c'est un peu plus parce que vu que c'est des records qui sont en miles, c'est 70 un peu quand ça sort de la main, donc ça fait du 130-140 je crois.
130 km/h.
Quand ça sort de la main, après la distance, là le record du monde il est à 200 mètres.
Donc, 200 mètres. Ouais, ouais, ouais.
Mieux pas se le prendre dans la tête parce que là.
Après c'est des disques spécifiques de distance qui sont pas les mêmes de Ultimate que. C'est les disques qu'on utilise pour la pratique du disc golf, justement.
Justement, c'est un sport dangereux. Il y a très peu d'accidents.
Il y a des accidents comme dans tous les sports. Il faut faire attention. C'est quand même, dans le cadre de l'ultimate, quelque chose qui est très explosif. Donc, sur la fibre musculaire, on a beaucoup de claquages. Il y a des très gros changements de direction, très rapides.
Oui.
Donc, au niveau aussi articulaire, que ce soit cheville, genou, on a pas mal de casse à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que si un jour vous avez l'occasion de voir une compétition d'ultimate, les équipes accordent une très grande importance à l'échauffement et aussi sur tout ce qui va être aussi traumatisme aussi du haut du corps, parce qu'on arrive sur des matchs où on doit faire des plongées pour aller récupérer des frisbees ou faire des défenses. Donc aussi sur des mauvaises réceptions, il arrive aussi de se déboîter des épaules ou autre chose.
Et justement, donc tout ce travail de préparation physique pour éviter les blessures, ça se fait autour de quoi? Qu'est-ce que vous travaillez peut-être en particulier? Parce que j'imagine qu'il y a des lancers, enfin des jetés et puis tout un tas de choses.
Comme dans tous les sports, il y a des techniques pour bien plonger, bien attraper les frisbees. Et après, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure avec Maëva sur la préparation physique. Donc il y a une préparation physique qu'on va faire en club tous ensemble, et il y a aussi une grosse part qui va être individuelle et propre à chacun sur ce qu'on va faire pour justement éviter les blessures comme dans chaque sport. Et puis aussi par rapport au niveau où on joue et à ce qu'on veut mettre comme élément pour pouvoir progresser ou juste se sentir bien dans sa peau et dans son sport.
Alors, Benjamin, quelles sont les compétitions les plus importantes sur Paris? On parlait de compétitions. Vous organisez des grands matchs?
Eh bien, on aimerait bien.
Oui, à Charletti, ou je ne sais pas, pourquoi pas jouer au Parc des Princes ou,
ah, mais clairement, c'est pas des passes d'antan,
réserver
une place.
Ouais.
Ponctuellement, on va avoir des compétitions nationales qui vont se passer à Paris. Donc là, chaque année, ça change. Ça peut arriver d'avoir des compétitions de National 1 ou 2 à Paris. Le problème à Paris, c'est qu'on a peu de terrain. Enfin, ça, c'est pas une nouveauté. C'est le cas de tous les sports, notamment les sports d'extérieur. C'est très concurrentiel. Donc, y faire des compétitions tout un week-end, l'espace est compliqué.
Et on ne peut pas jouer en salle dans votre sport. Alors, ça peut arriver.
C'est même quelque chose qui se pratique pas mal. Jusqu'en salle, on a des terrains et des dimensions, enfin, des gens qui changent beaucoup. Donc, on joue sur un terrain de hand, donc un terrain de 20 mètres par 40. On joue en 5 contre 5.
D'accord.
Et puis, du coup, forcément, en intérieur, on n'a pas de vent.
Ouais,
donc là, forcément, les lancers, on peut s'amuser pas mal.
Il faut faire attention dans les tribunes quand même. Hein.
Oui, quand le spectateur, il faut être habitué à ce qu'on a dit de temps en temps. C'est pas du sport.
Justement, il est comment le public qui vient vous voir Est-ce que d'abord, vous avez du public? Et il est comment? Très, très, très passionné, très enthousiaste ou au contraire plutôt calme?
On n'a pas encore de fan club.
Ouais, pas encore,
on
c'est dommage.
Bien, mais, même au ça public va venir.
Même au PUC, un club important pour toi.
Non, non, même au PUC. Écoutez, si vous voulez créer le club d'ultra du PUC Ultimate, avec grand plaisir. Ouais. Non, je pense que le public, ça reste principalement les joueurs, les proches, et joueuses, quoi. En fait, ouais. Les proches, effectivement. Mm-hmm. Donc non, c'est pas encore hyper médiatisé au point qu'il y ait des personnes qui viennent.
Et comment ça se passe pour l'arbitrage?
Ah.
Oui. On est là pour poser des bonnes questions.
Ouais, ouais, ouais. Bah, l'arbitrage, c'est une chose un petit peu particulière dans notre sport puisque c'est basé sur le fair play, donc c'est de l'auto-arbitrage.
Ouais. Ouais.
Voilà.
C'est
donc,
fou quand même. Hein.
Ouais. Donc les joueurs et joueuses sont tenus de connaître le règlement et dès qu'il y a une faute sur le terrain, doivent l'appeler.
Il n'y a jamais de contestation.
Il peut y avoir des contestations, mais c'est OK. On a le droit de contester, c'est pas une mauvaise chose de contester. Donc juste, on doit résoudre, on va dire, le problème de façon la plus efficace possible, la plus rapide possible pour pas ne prendre trop de temps sur le jeu. Ouais. Mais ça se passe comme ça. Donc les joueurs appellent leur propre faute et on parle.
Il n'y a jamais personne qui a dit non, on n'est pas d'accord, on ne reprend pas le jeu.
Alors, on peut ne pas être d'accord et quand on n'est pas d'accord, dans ce cas-là, on conteste et le jeu revient à l'action d'avant.
C'est automatique.
Et c'est automatique.
D'accord. Voilà. Ok. Ouais, bah oui. Donc.
Mais finalement, c'est l'avantage, c'est que quand vous avez un arbitre, vous pouvez jouer avec l'arbitre. Vous pouvez essayer de jouer avec les règles.
Pourquoi il y a des arbitres?
Non. Si vous faites ça dans notre sport, vous voyez, on connaît. Voilà. On connaît. Vous avez l'idée.
Bah oui.
Et du coup, on peut un peu essayer de changer un peu la. Voilà. Par exemple.
Ouais.
L'intérêt, c'est que quand il n'y a pas d'arbitre extérieur et que c'est juste vous et votre adversaire, vous pouvez toujours essayer de tricher. Mais du coup, il peut faire pareil. Et du coup, effectivement, à ce moment-là, on ne joue pas le match, on rentre tous chez nous et c'est beaucoup moins drôle. Donc finalement, le fait de ne pas avoir d'arbitre simplifie pas mal les choses. Très vite, on se rend compte que du coup, je donne mon point de vue. Très vite, je me rends compte qu'à tricher, j'y gagnais pas grand-chose. Et ça paraît absurde, mais en fait, venez, vous verrez, ça se passe très bien. Non, effectivement, des matchs qui se sont arrêtés parce que personne n'arrive à se mettre d'accord. Honnêtement, j'en ai pas l'expérience. Ça peut arriver que des fois, on soit un peu frustré par le point de vue adverse. Mais non, des cas vraiment comme ça, non, on n'en a pas.
Bon, peut-être un jour, sport olympique, non?
Peut-être.
Brisbane en 2032, non?
Ah bah écoutez, il y en a un certain nombre qui espéraient peut-être un Paris 2024.
Ouais,
voilà, on espérait
mais
évidemment.
Pas ça commence, c'est pas une culture française, donc c'est peut-être pour ça, non?
Non, il y a aussi l'espoir de Los Angeles, coup, forcément.
Ah oui, ça,
voilà.
Oui, ça oui.
Ça ne s'est pas fait.
Donc peut-être Brisbane un jour. En 2032,
Oui, oui. Après, évidemment, c'est les rêves olympiques. Tout le monde en rêve, évidemment. Après, vient avec l'olympisme, vient aussi des grands enjeux, l'enjeu financier, l'enjeu d'arbitrage, effectivement, que c'est une
question. Non, puis Maëva, elle pourrait participer au jeu comme ça, à son équipe de France.
C'est à Brisbane, peut-être je serais un petit peu trop vieille maintenant. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé Paris ou Los Angeles, mais écoutez, c'est pas tout de suite. Après, là, on est aux World Games déjà.
Ouais.
Donc les Jeux mondiaux, on a fait notre première participation en 2022, 2023, je sais plus. Et l'équipe de France a fini 6e de ces Jeux mondiaux. Mais les Jeux olympiques, écoutez, peut-être un jour.
Quelles sont les meilleures équipes? Quelles sont les meilleures nations mondiales?
Alors, c'est vrai qu'il y a forcément les États-Unis, donc pays où est né le sport, qui sont assez au-dessus. Après, on a le Canada qui est une très très bonne nation aussi.
Ouais.
Et après, en Europe, en vrai, la France se place plutôt bien.
D'accord.
On a la Grande-Bretagne aussi qui est très forte, l'Italie. Et après, on a quelques nations où, par exemple, le Japon qui a un style de jeu vraiment très différent de ce qu'on est habitué, nous, en Europe, avec un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus court, etc.
Tiens, ça me fait penser, il vaut mieux lancer la petite...
Le disque.
Le disque avec la main gauche ou la main droite?
Bah écoutez, la main dominante. Ouais. Donc non, moi, par exemple, je suis droitière.
Est-ce que ça joue?
Non, c'est important.
Ouais,
bien sûr. Donc c'est vrai que les gauchers gauchères souvent ont un petit avantage parce que du coup la défense s'y attend moins, et ils peuvent aller dans des positions etc qui sont plus inattendues. Après là, c'est vrai qu'à haut niveau il y a pas mal de personnes qui développent. Par exemple si je suis droitière, donc vont essayer de développer leur main gauche pour pouvoir si je suis forcée d'une certaine force. Ma main gauche va pouvoir me permettre de me sortir de cette situation plus facilement. Donc c'est vrai qu'on essaye de travailler un peu les deux mains, mais on reste quand même avec notre main dominante.
Très bien. Allez, on va marquer une petite pause musicale. Hein, on vous laisse souffler un peu et puis ensuite on va repartir sur le frisbee. Puis on ira aussi à l'Institut Gustave Roussy, savoir ce qui se fait en matière de sport. Puis on écoutera aussi le journal Omnisport d'Alexandre. Allez, la pause musicale.
Pour un serpent de Bible, abri de son empire, bleu de l'enfer, couleur amour, dessine sur la pierre,
les mots du premier jour, saveur amère d'homme interdit à goûter les plaisirs que Dieu punit. Oh, cœur mortel, aide aux yeux pâles, délaissé par le ciel et la mort.
Voilà, c'était Julie Pietri, Ève, lève-toi. Maëva, vous avez des opérations extérieures, notamment donc avec des grandes sociétés, des grandes entreprises ?
Oui, c'est ça. Nous, on essaye de développer ça au maximum avec le PUC, donc forcément pour faire découvrir un peu la pratique et recruter des nouveaux et nouvelles adhérentes. On fait des interventions du coup dans des écoles primaires, dans des collèges, à l'université aussi.
Et ça plaît bien ?
Et ça plaît bien, ça plaît bien. C'est très différent pour les jeunes. Donc en fait, ils sont contents et contentes de découvrir ce sport. Ça se joue en mixité, donc forcément, souvent, les enfants sont un peu amusés de ça et puis ils peuvent... constater qu'en fait c'est super simple de jouer entre filles et garçons et que voilà, il y a pas les filles sont nulles ou machin.
C'est vrai que c'est rare.
Ouais, c'est vrai que c'est rare. Mais du coup, ça fonctionne très bien, donc c'est assez cool, surtout sur les jeunes publics. Et après, bon, on fait aussi dans des entreprises, par exemple, s'il y en a qui font des séminaires ou des choses comme ça.
Ah oui, c'est ça pour se décontracter. Par exemple, pour la cohésion d'équipe. Voilà. Bon, ben moi, je vous propose de venir un jour donc à l'Institut Gustave Roussy.
Avec plaisir.
Je suis sûr que Daphné donc sera particulièrement ravie de vous accueillir parce que je l'ai dit, Daphné, l'Institut Gustave Roussy est très 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 impliqué dans le domaine du sport.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Déjà, pour rappeler qui est Gustave Roussy, on est le premier centre de lutte contre le cancer en Europe et le quatrième mondial. On est situé à Villejuif et on soigne chaque année plus de 50 000 patients. Et donc, on est expert des cancers rares et complexes. Et on a pour ambition de guérir le cancer au XXIe siècle. Et pour ça, en fait, on a besoin de l'argent de tous, de l'argent de la société civile. Et donc, les dons sont essentiels. Et ça passe notamment par le programme Dossard Solidaire, qui est une initiative qui va allier le sport à la solidarité lors de cours solidaires.
Et ça, c'est le 26 mai.
Il y en a une, notamment le 26 mai, qui est l'Adidas Paris Dica. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser ses proches autour, justement, de Gustave Roussy, de la lutte contre le cancer, et de prendre un dossard solidaire. Donc, on ouvre une page de collecte sur cette plateforme, Dossard Solidaire, et on doit réunir 15 euros par kilomètre, donc ça veut dire 150 euros au total, pour venir prendre le départ de cette course qui a lieu le 26 mai prochain.
Et il y a des frais d'engagement ?
Non, pas du tout.
C'est-à-dire, on verse ce qu'on court, quoi, c'est ça ?
Exactement, c'est qu'au lieu d'acheter un dossard classique, on vient en fait souscrire à un dossard solidaire. Et pour pouvoir prendre le départ de la course, il faut pouvoir réunir 150 euros qui seront directement reversés à la recherche contre le cancer menée à Gustave Roussy.
Ouais. Combien de kilomètres ?
C'est 10 kilomètres.
C'est 10 kilomètres. C'est où cette épreuve ?
C'est à Paris, c'est donc au cœur de la capitale. C'est le départ, c'est sur l'Arc de Triomphe et ça passe par des sites prestigieux, le Louvre, voilà.
Donc c'est le 26 mai, c'est à quelle heure le départ ?
Le 26 mai, je pense que le départ doit être à partir de 9h, ça dépend du sas de départ. Selon si on veut faire 50 minutes, 55 minutes ou plus d'une heure. On a à peu près 200 coureurs.
Est complet ?
On a encore, je pense, une dizaine de dossards qui sont disponibles.
Ah bah vous voyez, quand je vous avais au téléphone, vous m'aviez dit, bon, on sera sûrement complet.
Non, on a réouvert quelques inscriptions et du coup, on espère avoir 200 coureurs.
C'est bien.
Dans l'équipe Gustave Roussy, à ce jour, ça a permis de collecter 45 000 euros du coup, directement à la recherche contre le cancer.
Oui, parce que bon, c'est pas le thème de l'émission, mais il faut dire quand même que la lutte, elle avance. Et il y a beaucoup de combats qui sont gagnés aujourd'hui.
C'est ça. On a fait énormément de progrès, en tout cas en matière de recherche, et on n'a jamais autant guéri aujourd'hui du cancer. Mais pour autant, ça reste un enjeu de santé publique. L'incidence du cancer a doublé entre 90 et 2023. Et aujourd'hui, je pense qu'on a, autour de cette table, on a tous quelqu'un qui a fait l'expérience du cancer. On a tous un proche touché par cette maladie. Et c'est pourquoi il est indispensable d'accélérer les progrès, les découvertes, pour pouvoir guérir un jour le cancer et que ça ne soit plus qu'une maladie chronique. Et voilà.
Et ceux et celles qui nous écoutent, s'ils veulent venir justement courir, ils vont sur votre site directement, ils cliquent, ça se passe comment ?
Alors, ils viennent sur le site Dossard Solidaire, ils choisissent l'association Gustave Roussy, ils ouvrent une page de collecte. Et donc justement, l'idée, c'est de réunir 150 euros pour prendre le départ de la course. Et après, il faut savoir que chaque don qui a lieu sur la plateforme est déductible des impôts. Donc par exemple, un don de 100 euros ne coûte en réalité que 34 euros, mais c'est bien 100 euros qui iront directement à la recherche contre le cancer.
Et puis, vous avez d'autres manifestations sportives, donc souvent à travers la course à pied.
Oui, alors en 2023, on a été partenaire du coup de Dossard Solidaire. On a fait le semi-marathon de Paris et le marathon de Paris. Donc là, l'Adidas Dica. Donc en 2023, on a eu à peu près plus de 500 coureurs qui sont dans l'équipe Gustave Roussy et qui ont permis de collecter 265 000 euros. On réitère l'année prochaine, donc on aura de nouveau une participation au marathon de Paris, au semi-marathon de Paris et à l'Adidas Dica. Mais autour de ça, on a aussi plein d'autres initiatives sportives.
Ouais, c'est ce que j'ai vu en préparant l'émission.
On a des courses à pied, notamment la course Enfants sans cancer, qui a lieu en septembre, qui est une course dédiée en tout cas à la recherche contre les cancers des enfants. On va avoir la course Odyssée qui a lieu le premier week-end d'octobre, Odyssée à Paris. Donc c'est une course dont l'entièreté des bénéfices est reversée à Gustave Roussy et à la recherche contre le cancer du sein.
Oui.
Et après, on va avoir d'autres initiatives sportives qui ne sont pas que de la course à pied.
Oui, justement. Alors, j'ai vu que nos amis qu'on connaît bien du Variété Club de France étaient venus en 2018 jouer et les bénéfices des matchs avaient été pour l'Institut Gustave Roussy. Il y a aussi des grandes randonnées de vélo.
Oui, on a une course en septembre, c'est la Nicolas Werner Challenge. C'est un grand circuit cycliste.
Là, c'est pareil, c'est le nombre de kilomètres qu'on fait qui génère de l'argent.
Non, c'est les frais d'inscription qui seront directement reversés à Gustave Roussy. Il y a aussi, pareil, un Open de golf qui a lieu en octobre. C'est l'Open de golf de Saint-Cloud.
Ouais.
Pareil, ce sont les frais d'inscription qui sont directement reversés à la Fondation Gustave Roussy. Et puis voilà, on a aussi des initiatives.
Et vous aviez un bateau qui était parti sur la Transat avec Gustave Roussy, qui a fait la Transat Jacques Vabre, quand même bien connu.
Bien visible, oui, on avait un bateau.
Et je crois que vous avez participé à une épreuve de Bretagne, justement au niveau de la voile. On connaît quelqu'un qui va y être aussi. Donc voilà. Carlotta qui va y être.
Tout à fait.
Donc vous avez même des gens de l'hôpital, des toubibs, des chercheurs qui pratiquent le sport avec les patients.
Oui, c'est ça. Même, on a même des médecins, des chercheurs, personnel soignant qui viennent participer, par exemple, à la Didasica, au marathon. Et justement, enfin, ils sont main dans la main avec des familles de patients, des gens qui viennent aussi rendre hommage à un proche disparu et qui, du coup, ont envie de se dépasser, de faire le marathon, faire un défi sportif. On a aussi des gens qui viennent... courir en soutien à des proches qui se battent contre la maladie. Et en fait, tout ça, on est tous main dans la main avec les chercheurs pour la recherche.
Et vous avez des parrains marraines prestigieux qui vous accompagnent à travers ces manifestations sportives?
Non, on n'a pas de parrains, pas encore,
c'est pas
on
la bonne
recherche.
Année, mais bon, l'année prochaine, peut-être, ça peut s'arranger, quoi.
C'est ça.
Et puis, il est aussi prouvé, c'est important, que faire du sport, même quand on a le cancer, ça aide pour guérir.
C'est exactement ça. Et Gustave aussi, on est fiers de promouvoir le sport parce qu'il a été prouvé que le sport permet de réduire le risque de cancer et justement aussi permet... d'améliorer la qualité de guérison et le risque de rechute du cancer. On a pas mal de programmes de qualité de vie qui accompagnent les patients tout au long de leur parcours de soins et dans justement l'après-cancer à retrouver une meilleure qualité de vie. Et ça passe par le sport, notamment.
D'accord. Donc, on va rappeler que fait-on pour venir le 26 mai pour les retardataires?
Alors, il faut se connecter sur le site d'Ossard Solidaire, choisir Gustave Roussy et ouvrir une page de collecte. L'idée, c'est de réunir 150 euros. Donc, on peut faire soit le don soi-même, mais l'idée, c'est d'associer plutôt ses proches à son engagement. Et une fois la somme collectée, on reçoit un lien d'inscription pour prendre le départ de cette course. Et on est intégré à l'équipe Gustave Roussy. Donc, ça veut dire qu'on reçoit... un t-shirt Gustave Roussy, ce qui permet de porter les couleurs de Gustave Roussy pendant la course, mais aussi un kit supporter pour l'entourage qui viendra nous soutenir pendant la course et pendant ces 10 kilomètres.
Oui, donc allez-y, mettez quelque chose sur pied, vous en tant que président du comité de Paris, vous voyez avec eux, et puis ça peut se faire, quoi.
On serait ravis d'avoir un challenge ultimate, un rallye contre le cancer
radio,
en ultimate.
Hein.
Allez, très bien, faisons ça.
Et puis, si on veut, pour les autres manifestations, ça se passe comment? Vous avez un site régulièrement, on va se connecter dessus. Si on veut être au courant un petit peu de ce qui se passe le restant de l'année.
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Oui. On est présent sur Strava aussi, où on met en ligne nos actualités sportives. Sur les réseaux sociaux aussi, on communique sur les différentes manifestations. Et aussi sur notre site Gustave Roussy, vous avez les différents événements. Donc ça va être justement Odyssée à Paris.
Le golf, la voile, tout
exactement.
Ça. Voilà. Très bien. Et bientôt donc
l'Ultimate.
Voilà.
Très bien.
Très bien. Merci en tout cas, Daphné. Alors, on l'a dit, l'ultimate, le frisbee, c'est pas qu'un sport collectif, c'est aussi un sport individuel. Il y a d'autres, disciplines dérivées.
Donc oui, il y a une discipline individuelle qui se joue avec un frisbee qui s'appelle le disc golf. Et comme son nom l'indique, c'est du golf, mais avec un frisbee. Donc,
golf avec un frisbee.
Voilà.
Alors, je connais le foot golf, on avait fait une émission, mais...
C'est un peu comme le foot golf, c'est pareil, sauf qu'on lance un frisbee au lieu de tirer dans une balle et il faut finir... On doit faire un parcours de 18 trous, donc on lance un frisbee qui doit atterrir dans un panier métallique.
D'accord.
Donc après, c'est exactement comme le golf. Donc il y a 18 paniers. C'est pas, on appelle pas ça des trous, on appelle ça des paniers. Avec des distances diverses et variées. Ça se joue souvent dans des parcs en pleine nature. Donc il y a plusieurs parcours en Île-de-France. Et donc j'invite tout le monde à venir essayer, de regarder où sont les parcours.
Et ça, on se spécialise ou alors on peut aussi faire des compétitions par équipe et en plus ajouter ces quelques compétitions et spécificités individuelles.
Les deux disciplines se retrouvent dans la même fédération. Hein. Moi, je suis un bon exemple parce que je joue dans les deux disciplines.
D'accord.
Mais il y a énormément de personnes qui jouent soit dans l'une discipline ou dans l'autre. Il y a un temps plus longtemps, il y a une vingtaine d'années, c'était beaucoup de reconversions de joueurs qui ne pouvaient plus trop jouer à l'ultimate, un peu des anciens, on va dire. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus trop ce cas de figure. On va sur un tournoi de disc golf, il y a des personnes qui ont jamais lancé un frisbee d'ultimate et qui ne savent pas du tout ce que c'est l'ultimate. Et on le voit bien, il y a même les compétitions qui sont organisées en même temps, alors qu'avant, la fédération faisait attention. Mais aujourd'hui, c'est vraiment deux disciplines complètement différentes.
Ouais. Et après, donc, d'autres disciplines dérivées aussi ? Non ?
Il y a
non.
d'autres disciplines dérivées, mais elles sont quand même un peu plus loin derrière et, je veux dire, quasiment pas jouées en France où ça reste plutôt dans un cadre d'un petit entraînement ou de quelque chose un peu ludique, mais ces disciplines sont vraiment à part, peut-être plus jouées aux États-Unis que vraiment en France.
Benjamin, quelle est la tranche d'âge pour l'instant qui pratique ce sport ? Si on est tout jeune, qu'on a 7 ans, on peut venir déjà pratiquer vos disciplines ? Il y a déjà des écoles pour les jeunes ?
Alors, des écoles, oui. Alors, actuellement, comme nos clubs, on se mélange pas mal, on a des sections jeunes. Ouais. Oui, voilà. Mais clairement, c'est le grand avantage de nos disciplines, c'est qu'on peut vraiment venir à n'importe quel âge. Ouais. J'ai envie de dire, on peut commencer à n'importe quel âge.
Et il y a beaucoup de jeunes, justement, où c'est un sport un petit peu plus de reconversion.
Alors, non, du tout. Surtout là, comme disait Antonin, on a un sport qui évolue grandement et on a de plus en plus de jeunes qui viennent dès le plus jeune âge. Je pense que Maëva a commencé déjà plus jeune que je ne l'ai commencé moi-même. Et donc on a des jeunes effectivement qui viennent, surtout les enfants évidemment, des adultes qui eux-mêmes en ont fait, mais qui sont donc du coup effectivement de 17 ans avec des petits frisbees adaptés éventuellement en mousse à 60 ans ou plus.
Mais les clubs ont suffisamment de moyens pour monter différentes équipes ?
Alors oui, tout à fait. On a beaucoup d'équipes en réalité, puisque du coup, comme on vous le disait, il y a à la fois, donc rien que pour parler de l'ultimate, il y a en intérieur, en extérieur.
Si vous avez deux jeunes de 10 ans, deux autres de 14 ans, deux autres de 16 ans, comment on fait pour qu'ils puissent participer
alors
à des compétitions ?
Ça dépend effectivement pas mal d'un club à l'autre. Ça dépend des moyens qu'on a à disposition, notamment à Paris, c'est un vrai sujet.
Ça arrive ça ?
Mais ça arrive que du coup, soit on est des sections par tranche d'âge, c'est évident qu'il y a idéal quand on peut et qu'on en a les moyens, sinon on se mélange. Et c'est aussi l'avantage d'avoir des sports, en l'occurrence mixtes et sans contact, c'est qu'en fait la mélange d'âge est moins problématique. Il est plus lié à la capacité de l'enfant à se prendre une place dans un groupe.
Et est-ce qu'il y a de bons rapports entre les différents clubs ? Est-ce qu'on s'entraide ? Est-ce qu'éventuellement on s'envoie tel ou tel pratiquant ou pratiquante si on ne peut pas l'accueillir ?
Ah bah certainement.
Vous coordonnez tout ça. Hein.
Oui, on essaye évidemment. Après, ça, actuellement, effectivement, il y a pas tant de clubs que ça encore. Donc il y a une.
Justement, chacun pourrait.
Ça n'empêche pas de temps en temps. On cherche les meilleurs joueurs chacun pour son club, évidemment. Mais non, il y a aussi une vraie logique de. On veut se développer. On a un sport qui grandit très vite, qui a une croissance à deux chiffres. On a tous plus de demandes que ce qu'on a comme place pour accueillir.
Tant mieux.
Et du coup, évidemment, il y a une logique de comment on fait pour accueillir tous ces gens-là. Et on s'organise.
Alors, ceux et celles qui veulent vous rejoindre, maintenant c'est trop tard, hein, on est au mois de mai, il faut attendre septembre, il faut attendre les différents forums des associations.
Alors, évidemment, les forums des associations sont une très bonne opportunité de venir à notre rencontre. De façon générale, le mois de septembre est un très bon période pour venir découvrir nos disciplines, que ce soit au PUC, chez les Révolutionnaires ou à l'UTS Ultimate. Tous trouvables sur Internet très facilement, évidemment. Après, selon les clubs, on peut aussi venir découvrir à d'autres périodes de l'année. On a beaucoup parlé du sport de haut niveau qui effectivement là impose une logique de saison où on vit en début d'année, mais on a aussi dans chacun de ces clubs des espaces pour découvrir le sport, j'ai envie de dire à loisir, mais c'est pas tellement une question de loisir en tout cas, mais en tout cas sans chercher de l'équipe de France.
Il y en a qui demandent ça. Hein.
Et voilà, c'est ça. Et on est aussi très bon pour ça, notamment, je pense que je conseille notamment à toutes les personnes adultes qui veulent commencer un sport, ce qui n'est pas toujours évident dans d'autres disciplines, de pouvoir commencer l'ultimate au disque golf, même quand on a déjà 30 ou 40 ans. Et pour le coup, dès maintenant, n'hésitez pas à venir. Il y a moyen de venir nous rejoindre dès maintenant.
Ça coûte combien ? C'est un sport qui est cher ?
Alors, non. C'est pas un sport qui est cher, parce que comme on le disait, il y a très peu de moyens nécessaires. Vous prenez un frisbee, ça coûte 10 euros, 10, 15 euros. Des chaussures de sport, une tenue de sport. Après, les clubs, ça dépend grandement des politiques de chaque structure. À Paris, on va aller de, je dirais, 200 à 250 euros pour l'année.
D'accord, ok. Et vous, vous fournissez le... Le frisbee.
Alors pour les entraînements, on a évidemment un stock de frisbee comme vous auriez un stock de ballons pour le foot. Après évidemment, chacun très vite a son propre frisbee. En plus, les frisbees se personnalisent. On peut mettre des dessins dessus et donc très vite on part avec des collections de frisbees.
Il n'y a pas des couleurs.
Alors si chacun a le frisbee aux couleurs de son club, aux couleurs de son tournoi, des événements et on se retrouve très vite avec.
Mais dans une compétition, il n'y a pas une couleur officielle où on peut.
Alors non. D'ailleurs, même le règlement, c'est comme pour le reste, c'est un peu le principe d'auto-arbitrage. À partir du moment où on se met d'accord avec l'adversaire sur le frisbee qu'on utilise, tout le monde est content. Après, évidemment, de base, c'est plutôt des disques blancs. Ça se voit bien sur le fond vert des terrains. Mais par exemple, à la plage, on conseille plutôt un disque, par exemple, rose qui ressort mieux sur le terrain.
Très bien. Allez, on avait dit que Vanessa, elle connaît tout sur les médailles olympiques, elle connaît tout sur la flamme olympique. Alors, elle va nous dire un petit peu ce qui s'est passé cette semaine. Hein. On a vu que la flamme était arrivée donc, sur le Vieux-Port de Marseille. Donc, c'était effectivement mercredi.
Tout à fait.
Mercredi 8 mai. Donc, voilà. Elle en est où, la flamme, maintenant?
Alors là, elle voyage. Elle est passée par Montpellier et elle voyage vers la... Après, elle passera par la Corse. Mais on va parler de son arrivée à Marseille. Donc, après 12 jours sur la Méditerranée, en étant partie d'Olympie, la flamme est arrivée à Marseille le 8 mai. Et ce qu'on peut dire, c'est que ça a été vraiment un succès populaire d'abord. Et puis aussi un succès sécuritaire. Donc 230 000 personnes étaient à Marseille, dont 150 000 sur les Vieux-Ports.
On est toujours négatif en France.
Oui, mais ça va bien se passer. Et puis, bon, aussi un concert d'Alonso et de Soprano qui a réuni beaucoup de monde. Comme on l'avait dit la semaine dernière, beaucoup de sportifs de haut niveau, Basile Boli, Jean-Pierre Papin, des personnalités aussi, l'humoriste Redouane Bougueraba.
Éric Dimeco, Didier Drogba, enfin tout ça.
Exactement. Et puis aussi des anonymes, par exemple Colette Caltado, 83 ans, c'est à noter, qui est l'icône de l'Olympique de Marseille. Oui. Elle n'a pas raté un seul match depuis qu'elle est entrée au club des supporters. Il y a 200 personnes en tout qui ont relayé cette flamme. Et puis parlons aussi de Albert Corrieri, 102 ans, pour les doyens, puisque ces Jeux, ça a la volonté de réunir à la fois des personnalités du monde olympique, de la culture, des anonymes. Et de ce point de vue-là, je trouve que ça a été réussi, un vrai succès populaire. Et puis aussi Jules qui a allumé la flamme. Ça a été très commenté. On attendait Zinedine Zidane. C'est vrai que beaucoup de gens le voulaient, mais c'était pas le cas. Donc, c'est vrai que ça a déchaîné une polémique.
Zidane, il dépasse le cadre de Marseille. Voilà.
C'est ça, c'est notre héros national. En tous les cas, c'est quand même un bon passage et une belle première étape. Ça peut plus ou moins rassurer quand même pour la suite. Et puis, elle va passer travers...
Après, elle est partie dans le Var, elle est allée sur Montpellier, sur Millau, et avec toujours autant de succès.
Exactement. Et puis, donc, en tout, ce sera 79 jours, 67 étapes. Et l'arrivée à Paris, bien sûr, le 26 juillet, elle passera aussi par la Seine-Saint-Denis un peu avant. Et puis,
Il y aura le 14 et Dom-Tom,
exactement, Nice. On vous redonnera le parcours.
Je sais, parce que tu te connectes tous les jours, tu regardes...
Tous les jours, bien sûr.
Sur France TV, comme le parcours.
Ah bah oui, je connais chaque ville.
Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, merci Vanessa.
Merci à vous.
Bonsoir Alexandre, ça va?
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous, ça va très bien.
T'as pas trop la gueule de bois pour la semaine difficile pour le foot français?
Non, ça va.
On en parlera tout à l'heure. En attendant, tu nous as concocté un beau journal des sports.
Ouais. Alors on commence ce journal des sports avec les résultats de la 23e journée de Top 14. Et il y avait un gros match, Philippe, hier.
Toulouse.
Premier contre
stade
deuxième.
Français,
voilà, Stade Toulousain contre le Stade Français. Victoire écrasante des Toulousains 49-18. Ils prennent une option pour le titre à 3 journées de la fin. Toujours leader, 3 points devant les Parisiens. Le Racing 92 a perdu contre l'Aviron Bayonnais 37-28. Il reste toujours cinquième au classement, à un petit point devant le Stade Rochelet. En basket, résultat de la 34e et dernière journée, et le Paris Basket qui est allé s'imposer sur le parquet du Portel 80-66. Les Parisiens terminent deuxième de saison régulière derrière Monaco. Derby du 92 entre Boulogne-le-Valois et Nanterre, et c'est bien Nanterre qui a remporté le match 90-80. Le club du Nord des Hauts-de-Seine finit cinquième et Boulogne-le-Valois termine la saison dernier du championnat.
Ouais.
Pour les play-offs qui débuteront ce mercredi, on aura droit à Monaco-Le-Portel, Paris-Cholet, Lyon-Villeurbanne-Saint-Quentin et Bourg-en-Bresse-Nanterre. En handball, pas de match chez les hommes, mais il y a eu la 24e journée de championnat chez les femmes. Le Paris 92 a remporté son match 39-21 face à Aschenheim-Trustersheim. Brest reste toujours leader, Metz deuxième et Paris 92 justement troisième. En sport mécanique, le français Sébastien Ogier remporte le rallye du Portugal. Adrien Fourmeau termine lui quatrième. Au classement général, c'est toujours le belge Thierry Neuville qui est leader, suivi par le britannique Evans Elfin et l'estonien Tanak Ott. Sébastien Ogier et Adrien Fourmeau sont respectivement 5e et 4e. Il y avait également le Grand Prix de moto en France, remporté par l'Espagnol Jorge Martin, secondé par l'Italien Francesco Bagnaia. Le Français Fabio Quartararo ne termine lui seulement 12e.
Oui, on va rappeler que c'était au Mans. Hein.
Oui, c'était au Mans, voilà. Bien sûr. Au tennis, se jouait actuellement l'ATP de Rome. Et je vous rappelle que Rafael Nadal s'est fait éliminer en 32e de finale par le Polonais Hubert Hukash. Et que Novak Djokovic est lui sorti en 16e de finale, éliminé par le Chilien Alejandro Tabilo. Chez les femmes, la Française Caroline Garcia a perdu aussi en 16e de finale contre l'Américaine Danielle Collins. Et enfin, on termine ce journal des sports par le cyclisme et toujours le Giro d'Italie. Et c'est le Néerlandais Olaf Koch qui a remporté l'étape 9 hier, devançant l'Italien Jonathan Milan. Tadej Pogacar, lui, est toujours leader et maillot rose au classement général.
Très bien, merci Alexandre. Tu restes avec nous naturellement pour la partie foot. On écoute la deuxième pause musicale. Ensuite, on va retrouver notre ami Stéphane Desenclos. Allez, la deuxième pause musicale. We'll be right back. Voilà, donc on a eu un bruit bizarre dans le studio, mais rassurez-vous, on a eu un petit message comme quoi on était en période pré-olympique et que, hein, donc, voilà, on était dans une zone olympique. Mais tout va bien, voilà. Et puis cette émission, vous pourrez la réécouter en podcast, naturellement, comme tous les 87 autres émissions. C'est le week-end de Pentecôte, on sera en repos la semaine prochaine, donc vous pourrez largement réécouter toutes ces émissions avec tous nos invités et toutes les interviews donc, que vous a diffusé. Bon, notre ami Stéphane est un petit peu en retard, donc on va commencer le point foot hein, avec Alexandre. Alors Alexandre, je l'ai dit, je te parlais de la gueule de bois, il faut reconnaître que ça n'a vraiment pas été brillant pour nos deux équipes, aussi bien le Paris Saint-Germain que l'Olympique de Marseille. Paris Saint-Germain n'a pas une nouvelle fois répondu présent à l'événement, battu 1-0 donc au Parc des Princes face à Dortmund après une précédente défaite sur le même score de 1-0, et puis Marseille qui a sombré, qui n'a pas du tout existé. Les Marseillais qui avaient fait match nul à domicile contre Bergame 1-1, et Marseille qui a été largement laminé dans tout le secteur de jeu, battu 3-0 donc par Bergame.
Ouais, c'est dommage hein, pour Paris. Les rêves sont vite partis en fumée. Pourtant, il y avait une grosse ambiance avant le coup d'envoi. Ils avaient tous mis les bouchées doubles, les supporters. Mais malheureusement, voilà, Paris n'a pas été à l'auteur de l'événement, et j'ai envie de dire à l'image de Mbappé qui a fait son dernier match en Ligue des Champions au Parc des Princes, oui, et qui n'a pas été à l'auteur de l'événement, qui s'est éteint. Et donc du coup, défaite de Paris, Dortmund qui affrontera le Real Madrid en finale. Voilà. Et concernant Marseille, Marseille pareil. Marseille, on les a vus sont peut-être un peu trop beaux après le match aller. Et finalement, voilà, ils sont sortis par la petite porte face à l'Atalanta Bergame qui était finalement largement au-dessus. Mais Stéphane pourra nous en parler sans doute.
Bah voilà, notre ami Stéphane vient d'arriver. Stéphane, bonsoir. Je sais qu'il faut se garer un petit peu dans Paris, hein, donc c'est pas toujours facile. Et puis, évident, Stéphane, j'ai envie de dire pourquoi le Paris Saint-Germain n'a pas encore répondu présent à l'événement comme on pouvait l'attendre.
Si on le savait, hein, il répondrait présent. Hein.
Oui, non, mais bien sûr. Le problème, c'est que l'histoire, elle se renouvelle à chaque fois depuis 2013, quoi.
Oui, sauf que là, il n'y a pas eu de...
Ah, ils n'ont pas joué, là.
Non, ils n'ont pas joué, je suis d'accord. Mais là, on va dire qu'au moins, on a été épargné par le truc incroyable, tu mènes 5-0, tu te fais 4, tu gagnes 1, ou alors, cette espèce de montée, sur les deux matchs, on a senti qu'on a très vite on a très vite vu que ça allait être très compliqué. J'ajouterais quand même que contre, malgré un niveau pas suffisant, pas du tout suffisant. Il n'y a aussi pas du tout eu la réussite pour l'instant.
Oui, mais comme a dit Mbappé, quand on tire 4 fois sur les montants au retour et 2 fois à l'aller, c'est qu'on ne mérite pas de passer.
Voilà, oui. De toute façon, déjà, quand tu ne gagnes pas, c'est que tu ne mérites pas de passer. Ouais. Donc je ne dis pas du tout qu'il méritait, mais je dis que là, en fait... c'est vrai que c'est hyper désolant de pas les avoir vus maintenant, expliquer
surtout
pourquoi,
cette année il y a eu une phase de poule très compliquée quand même hein, c'était pas facile, c'était le groupe le plus équilibré, mais après il y avait un tableau qui était dégagé quand même.
Bah oui, sauf que moi j'ai toujours dit, j'étais un des seuls, hein, rappelez-vous la semaine dernière, à dire, je l'avais peut-être déjà dit ici avant de le dire dans Au bout du foot, que c'était du 50-50 quand t'arrives à ce niveau-là. Hein, c'est un peu.
Ouais. Nous on disait qu'ils étaient en ballotage favorable, malheureusement il n'y a pas eu suffisamment de report de bois.
Hein. Exactement. C'est du 50-50 à ce niveau-là, donc ça joue dans plein de choses. Ouais. Si t'es pas supérieur de la tête et des épaules, ce qui n'était pas le Paris Saint-Germain dans son match, dans son jeu, et bien après, tu n'as pas de réussite. Hein, c'est 2 poteaux à l'aller, même si c'est sur la même action. Okay. Et puis, je ne sais pas combien.
4
au retour. Ça veut dire qu'effectivement, et peut-être le destin a vu l'équipe qui en voulait le plus, qui avait le plus envie.
C'est vrai que c'est un beau collectif, Dortmund, hyper efficace, hyper réaliste. Une équipe complètement inattendue. Hein. Elle est sortie premier de la poule, personne n'avait prévu. Même nous, on s'était tous plantés. Et puis, cette équipe, elle est en finale.
C'est aussi une équipe qui a eu aussi... on peut retourner aussi...
Cinquième du championnat allemand.
Voilà. On peut retourner un peu aussi le constat qu'on fait avec le Paris Saint-Germain. C'est aussi une équipe qui a eu quand même beaucoup de chance dans le tirage. Parce que même si l'Atlético de Madrid, fallait les sortir, mais c'est pas non plus, c'est pas le Real, c'est pas City, c'est pas.
C'est toujours difficile l'Atlético.
Mais c'est quand même, quand même dans les ordres de la hiérarchie, c'était pas les premiers. Ils ont ça. Après, ils ont pour le Paris Saint-Germain, ils ont deux poteaux à l'aller, quatre au retour. En phase de poule, je pense que le match nul, un partout, il est quand même bien.
Ouais, mais enfin, c'est Paris qui a raté beaucoup d'occasions.
Oui,
hein,
non, mais bien sûr, non, mais exactement. Ils méritent. Ils sont là, c'est qu'ils méritent. Déjà, faut dire ça absolument. Ils sont là, c'est qu'ils méritent. Mais ils ont eu ce petit brin de chance en plus, comme avait Nice en début de saison, comme a aussi peut-être malgré tout le Bayer Leverkusen, par exemple, cette saison, qui égalise dans les dernières minutes, les dernières secondes. Ils ont toujours ce petit truc en plus. S'ils l'ont, c'est qu'ils le méritent. On dit souvent la chance ou ça se provoque. Donc voilà. Puis c'est finalement.
Donc inattendue équipe de Dortmund qui va jouer le Real Madrid. Alors le Real qui avait donc fait match à Munich 2-2 et qui est allé gagner, j'allais dire comme d'habitude, contre le Bayern de Munich 2-1. Même si le Real a tremblé et a été en difficulté, mais le Real, comme d'habitude, s'en est sorti.
Ils s'en sont sortis. Ouais. Comme d'habitude, voilà. Maintenant, après, on aura l'occasion d'en parler. Je ne sais pas si ça a eu un résultat, une conséquence directe sur le résultat, parce que je ne veux pas aller jusqu'à identifier, quoi, analyser toutes les images, mais il y a quand même eu la plus grosse faute pour moi de l'histoire, en tout cas de la VAR, depuis que la VAR est installée. Quoi.
Quand on dit comme d'habitude,
faute d'arbitrage, je ne sais pas. Et puis, en plus, on ne sait même pas si le but aurait été finalement accordé ou pas, j'en sais rien, ou s'il l'aurait arrêté, le gardien, donc sans anticiper. Mais c'est vrai que oui, ils ont cette... Là, c'est vraiment, quoi, je pense qu'on a un peu senti quand même un petit peu le poids de l'histoire, quoi, parce que quand on regarde, quoi, le scénario, il est quand même assez exceptionnel, quoi, je veux dire, il est incroyable. Le type qui rentre à 5 minutes de la fin, qui a joué deux matchs ou titulaire, je crois, dans la saison, et 500 minutes, qui est prêté par un club de D2, qui a 32 ans et qui met deux buts en...
Certains vont dire c'est du coaching.
Ouais, qui vient de mettre deux buts en 3 minutes à la fin, c'est un truc qui arrive quasiment là. Mais bon, le problème, c'est pas le problème. Le fait, c'est qu'avec le Real Madrid, ça fait... on en est au 4e, 5e fois où ce genre de choses...
Comme d'habitude.
Donc c'est peut-être effectivement le poids de l'histoire, ce que les joueurs ont en plus avec eux pour arriver à faire ce genre de choses.
Donc Real Madrid, ce sera la finale le 1er juin donc à Wembley.
Et le 2, je crois.
Non, le 1. Le 2, c'est le dimanche. Donc le 1er juin, le samedi, donc 1er juin. Et puis en Ligue Europa, on en a parlé, Marseille, pas pareil, Marseille n'était pas du tout du niveau, battu par une équipe de Bergame qui l'a largement dominé dans tous les secteurs, 3-0. Et encore Bergame, ils ont raté des occasions. Et il y a eu aussi un bon gardien marseillais parce que le score aurait pu être beaucoup plus large.
Ah, ça aurait pu être une claque monumentale parce que à la mi-temps, il y avait 1-0, je crois, pour Bergame à la mi-temps.
Oui.
Si je me souviens, c'est ça. Ouais. Et en fait, tout le monde
a
passé la mi-temps
en
se disant on a de la chance, il devrait y avoir au moins 2 ou 3-0 en faveur des Italiens. Voilà, maintenant après, c'est un peu ce qu'on disait. Bon, Marseille. Ils le savaient de toute façon que vu leur état, vu le niveau des joueurs, vu leur état, ils savaient qu'ils avaient besoin d'être à 150% pour avoir une chance de passer.
Non, malheureusement, ils ont été à 50% chez elles, mais qui à l'extérieur a des gros problèmes.
Voilà, puis avec des manques incroyables. Donc bon voilà. Maintenant, moi, je considère que de toute façon, quasiment aucune des deux équipes. Peut-être plus quand même le Paris Saint-Germain que Marseille, on ne les voyait en demi-finale.
Oui, alors justement, c'est une question que j'allais poser. Est-ce que les supporters n'ont pas vu leurs deux équipes trop belles? Parce que c'est vrai quand même qu'on a vu beaucoup trop d'absences dans le jeu du PSG cette saison. Alors bon, sur le plan national, ça ne pose pas de problème. Sur le plan européen, ça se paye cash. À l'image du but que prend le PSG, c'est la copie conforme du but qu'ils prennent contre Barcelone, sur les erreurs défensives. Voilà. Et Marseille, c'est quand même assez souvent laborieux. Ils ratent beaucoup d'occasions. C'est souvent... Et puis, voilà. Est-ce que les deux équipes ont pas... Les supporters n'ont pas vu les équipes peu trop que belles par rapport à ce qu'elles étaient?
Je ne sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je ne pense pas qu'on puisse dire ça, parce que forcément une équipe j'aime pas, quoi, c'est le genre d'analyse que moi personnellement en tout cas j'aime pas du tout, parce que c'est normal qu'une équipe, que des supporters, moi je le redis, je l'avais dit avant, l'attitude des supporters des joueurs c'est différent, mais des supporters des deux équipes et tout, c'est avant le match jusqu'à la fin du match, c'est une chose. Maintenant effectivement, où on peut dire est-ce qu'ils ne l'ont pas vu trop belle, c'est aujourd'hui. Si tu as des supporters, en l'occurrence, je pense pense plus pour Marseille, des supporters qui insultent les joueurs marseillais parce qu'ils n'ont pas été capables d'aller en finale. Je vais te répondre, c'est parce que ils ont peut-être vu leur équipe trop belle. Parce qu'au contraire, ils auraient pu les féliciter en disant s'ils avaient fait quelque chose. Alors, t'as toujours un moyen de reproche. Hein. Lui, il n'a pas assez mouillé le baillot. Lui, il n'a pas assez couru. Lui, il n'a pas été bon là. Lui, il a raté le but qu'il fallait absolument pas rater et que moi-même, j'aurais marqué. Et tout ça. Pareil pour le Paris Saint-Germain. Ils peuvent avoir des reproches à un autre niveau, un reproche vis-à-vis de leurs joueurs. Mmh. Notamment sur les deux matchs, la performance de Kylian Mbappé quand tu es censé être le meilleur joueur du monde.
Qui est transparent quand même depuis quelques matchs champion, des grands matchs européens quand même.
Voilà, tout, et sur le même en Ligue 1. Et donc, mais moi je pense pas que les supporters, les supporters les ont peut-être vu. Tu vois toujours ton équipe trop belle, tu peux pas dire. Et puis Paris, ils ont pas vu leur équipe trop belle. Pas, je redis maintenant, ils sont éliminés. Mais Paris Saint-Germain, Dortmund, il y a pas photo. Tu regardes les deux la saison, tu regardes les deux effectifs, il y a pas photo. Donc eux, ils étaient au sud de Dortmund, quoi, sur le papier. Ben non, après sur le terrain, c'est pas la même chose, quoi. Après Marseille, attentat, moi j'avais dit pareil, j'avais dit c'est du 50-50. Pour moi, c'était du 50-50. Bon après on peut.
Là c'était un ballotage légèrement défavorable, il y a peu de report de voile. Mais ouais, ça sont pas fait
mais,
bien.
Mais effectivement, ouais. Après on peut reprocher aux joueurs de pas avoir donné ce qui. Ce qu'ils voulaient, mais je ne pense pas qu'on puisse dire ça.
Alors, ils joueront contre Leverkusen, donc, qui a un petit peu tremblé quand même, avant de revenir en fin de match. Donc, 2-2 contre l'AS Roma. Il y a eu la victoire 2-0. Leverkusen, c'est vraiment l'équipe de l'année. Hein. Ils peuvent faire un triplé. Hein.
Ouais, triplé, tout à fait. Hein.
Ils sont champions d'Allemagne, ils peuvent gagner la Coupe d'Allemagne.
50e match.
Et cette Ligue Europa, ouais.
50e, mais alors, par exemple, il y a des choses, moi, qui me font un petit peu aussi des fois sourire quand on regarde. Par exemple, ils ont effectivement été menés 2-0 par Rome.
Ils ont gagné le match aller 2-0. Hein,
Alonso, il avait mis ses deux meilleurs joueurs sur le banc. Mmh. Mmh. Alors, j'aimerais savoir juste, c'est un peu comme si, par exemple, PSG Dortmund en match retour de la Ligue des Champions, Luis Enrique, il avait laissé au coup d'envoi Dembélé, Mbappé, par exemple, sur le banc. Ou je sais pas, bon, un autre, les joueurs que vous voulez. En tout cas, c'est Mbappé plus un autre. C'est deux, Vitinha, par exemple, sur le moment. Vitinha et Mbappé.
Ça lui est arrivé en championnat, mais pour Coupe
d'Europe. Voilà. Non, mais il l'a fait. Et ça n'empêche pas qu'il y en a un, on dit que c'est un fou, qu'il pense qu'à lui, qu'il veut toujours surprendre et tout. Il y en a un autre, il est à 50 matchs en défaite. Et puis, je ne sais pas, moi, je ne l'ai pas vu le match. Donc, je ne sais pas, ils sont rentrés un quart d'heure, 20 minutes de la fin, je crois, les deux.
Oui, c'est ça, il y a un but contre son camp à la 82e qui relance totalement. Et puis, à 97e,
Tu l'as vu, toi de Wirtz, par exemple, sur ce changement de jeu. Il est rentré quoi
mais non, pas tant que ça, franchement, il ne faut pas mentir. La Roma poussait beaucoup. Et au final, c'est totalement contre le cours du jeu qu'ils viennent égaliser, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est irrationnel, un peu, en fait.
Voilà, donc il y a un petit peu de ça aussi dans cette équipe, donc c'est pour ça que ça va être... Je pense que là, les supporters sont déçus, parce que l'OM a perdu en demi-finale contre l'Atalanta. Mais alors, si c'était monter le chou pour essayer de gagner la finale... Bon, on avait
juste Stéphane, pour continuer, je voulais simplement dire que le fait d'avoir reporté les matchs, ça n'a pas servi à grand-chose, finalement. Beaucoup ont critiqué les calendriers, puis finalement les reports. Ça pas, vu les prestations françaises, ça n'a pas servi à grand chose.
Depuis le départ, on sait que ça a servi à rien. Ça aurait servi à rien pour le PSG.
Bergam a joué lundi et Dortmund avait fait tourner le samedi précédent.
À part son gardien de but, Dortmund avait mis zéro titulaire. Une semaine avant, le Paris Saint-Germain, ou 10 jours avant, le match d'avant, le PSG avait fait pareil aussi. C'est des équipes qui ont l'avance. Maintenant, après, moi, je pense que pour Marseille, ça a forcément été pour les aider. Parce qu'ils avaient un effectif... très très fatigué, très diminué par les blessures, et le fait d'avoir fait ça leur a permis de récupérer.
Allez, dans la Ligue Europa Conférence, on aura un duel en italien et grec, hein, puisque l'Olympiakos jouera la finale à Athènes. En plus, elle a battu Aston Villa 2-0, elle a gagné le match aller 4-2, et puis la Fiorentina qui avait gagné 3-2 le match aller est allée faire 1-1 à Bruges. Donc total, on a quand même deux clubs italiens, deux clubs allemands, un club grec et puis un club espagnol. Exit la France, exit l'Angleterre.
Ouais, voilà, donc voilà. Ça veut dire que en tout cas, mon point de vue à moi, sur une saison particulière, on peut tirer strictement aucun enseignement de ça. Aucun enseignement. C'est pas parce que les... C'est peut-être pour d'autres choses, hein. Il y a peut-être de l'ancienneté, plein de choses.
Ah bah oui, il y a quand même les chiffres qui parlent pour eux. Hein. Voilà. Nous, on en a gagné deux. Hein,
c'est pas parce que là, il n'y a pas de club français en, finale cette année. Il y avait deux clubs, il faut plutôt voir qu'il y avait quand même deux clubs en demi-finale. Quoi.
Donc, bon, ce n'est pas la première fois. Hein.
Mais
enfin,
non,
bon.
Ce n'est pas la première fois, mais ce n'est pas non plus... Comme, c'est pas non plus
c'est pas fréquent, sauf dans les années 90, hein, c'était régulier. Voilà, mais enfin, c'était notre époque. Allez, on en vient au championnat, 33e journée. Donc la semaine dernière, on parlait de Lille, qui a été battu par un beau final des Lyonnais 4-3. Décidément, les Lyonnais donc, nous réservent de belles surprises dans leur fin de match. Alors, pour cette journée de championnat, c'était la 33e. On va quand même rappeler que Brest et Reims ont fait match nul un partout. Victoire importante de Nice devant le Havre 1-0. Paris Saint-Germain a un petit peu raté sa sortie et donc son titre de champion de France, de fêter son titre de champion de France en étant battu à domicile par Toulouse 3-1. Victoire de Monaco à Montpellier 2-0. Lille qui va donc gagner à Nantes 2-1. Et puis Machoun entre Rennes et Lens 1 partout. Lyon qui continue sa bonne lancée qui va gagner donc à Clermont 1-0. Victoire de Marseille devant Lorient 3-1 et de Strasbourg devant Metz 2-1. Donc maintenant ça se décante. Monaco jouera la deuxième place, ça c'est sûr, avec 64 points seront deuxième. Ça va jouer entre Brest et Lille, troisième, 58 points.
Entre Brest et Lille, oui. Avec un...
Pas troisième place qualificative à la Ligue des Champions.
Il ne faut pas oublier Nice.
Nice.
Ils ont 4 points de retard quand même.
Ils ont 4 points de retard, mais ils ont un match de moins. Non, ils ont un match de moins. Ils ont un match de moins contre le Paris Saint-Germain.
Cinquième avec 54 points.
Alors, je ne sais pas ce que va faire Luis Enrique, en l'occurrence, par exemple, pour Kylian Mbappé. C'est un des deux prochains matchs qu'il ne va pas jouer.
C'est vrai qu'on a dit les matchs en retard.
Un des deux prochains matchs, il ne va pas les jouer. Alors, où il décide de faire jouer Nice pour aller à Nice, où il décide de passer, de le garder pour Metz avant la finale de la Coupe de France. Ouais. Maintenant, Nice qui bat Paris, ça me surprendrait pas. J'avais même dit que Metz pouvait battre Paris.
Metz, on ne s'est pas trompé, hein, c'est fini, ils joueront les barrages.
Ouais, alors si, moi, je suis trompé.
Moi aussi, je me suis
trompé. Je sentais bien, j'ai failli crier victoire quand j'ai vu
les
que Metz.
Les Strasbourg-Metz, c'est toujours. Il y a toujours un petit peu d'amour.
Ils ont 1-0 à Strasbourg. Hein. Ils se sont fait renverser, ils ont perdu 2-1. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, en bas, on a normalement sauf. Tsunami, c'est figé, ça y est, c'est Metz qui joue le barrage.
Alors justement, donc après pour les autres places qualificatives à l'Europe, Lens et Lyon sont à égalité avec 50 points. Il y a plus 8 pour Lens, moins 7 pour Lyon, et puis Marseille 8e avec 47 points et 9e Rennes 46. Voilà, on sait qu'il y aura 7 qualifiés cette année en Coupe d'Europe.
Voilà, c'est clair. On sait qu'il y en aura 7 et donc c'est surtout la belle. La belle performance, c'est quand même Lyon. Hein. Ils sont bien sûr. S'ils gagnent leur dernier match à domicile, ils sont pratiquement sûrs de jouer au moins une Coupe d'Europe.
S'ils sont battus par Paris en finale de Coupe de France,
s'ils sont perdus battus par Paris, ils seront en gagnant le prochain match, ils seront 7e. Ouais. Ah non, il y a peut-être Marseille qui peut passer devant encore.
Mathématiquement, c'est pas encore perdu. Après, ça sera plus compliqué, quoi.
Voilà. Mais après, ça sera plus compliqué. Bon, pas forcément tant que ça, parce que
Alors,
ils finissent au Havre, qui est sauvé, du coup.
Et puis, en bas de tableau, on l'a dit, 14e Nantes, 33 points, 15e Le Havre, 32 points, et 16e Metz, donc 29 points. Metz qui jouera probablement les barrages, et même certainement 17e Lorient, 26 points, et 18e Clermont, 25 points. Donc ça, c'est figé, hein, pour eux.
Oui, tout à fait. Puis c'est intéressant quand même de voir. Je pense que c'est quand même un des enseignements quand même que peut-être plus de coachs devraient retenir. C'est quand même l'importance des différences de but. Parce que là, si on sait ça maintenant par rapport à notamment les quatre derniers en termes de points, les quatre derniers, ça, tout aujourd'hui repose sur des différences de but. Le Havre a 3 points d'avance sur Metz, mais une différence de but supérieure d'une dizaine de buts. Donc ils sont quasiment à l'abri de ce que je vois pas, Metz quand même mettre 5-6-0 au PSG. Non. Mais ils sont quand même quasiment à l'abri grâce à ça. Après, entre Metz et Lorient, c'est un peu pareil. Donc ça devrait peut-être aussi inciter les entraîneurs essayent de temps en temps à ne pas négliger le fait. Et on voit notamment en Angleterre, par exemple.
Ouais. Allez, la Ligue 2, parce que la Ligue 2, bah, là aussi, c'est déjà bien clafté. Hein. Amiens, Auxerre, Machul, 0-0. Saint-Etienne, Rodez, 1 partout. Victoire d'Angers, Annecy, 2-1. Le Paris FC qui a battu Guingamp, 2-1. Et puis Dunkerque et Caen, 2-2. Donc Auxerre, 71, champion, on va donc remonter, on le sait. Ça va jouer pour la deuxième place entre Angers, donc deuxième, 67. Et Saint-Etienne, troisième, 65. Et puis, ça va jouer aussi pour les playoffs. Cette fois-ci, c'est le Paris FC donc, qui est passé devant Rodez. Paris FC, 4e avec 58 points, 5e Rodez 57, c'est pratiquement cuit pour Caen, 6e avec 55 points. Il reste un match, ça va être compliqué quand même.
Caen pour Caen. Ouais, 55 compliqué. Ou 56
non, 55 Caen. 55.
Ouais, ouais, c'est un ouais. petit peu difficile. C'est ouais. vrai que ouais. maintenant, les équipes qui sont devant ont leur destin entre leurs pieds, on va dire. Maintenant, c'est le truc incroyable. Mais moi, ça, c'est, on parle pas trop de Ligue 2, mais j'ai eu l'occasion de pas mal discuter, échanger sur les réseaux sociaux avec des supporters. Et Saint-Étienne-Rodez, c'était écrit comme c'était évident. Saint-Étienne a tout perdu quand même. Il faut savoir qu'à un quart d'heure de la fin du match, non, à une demi-heure de la fin du match, Saint-Étienne menait 1-0 et Angers perdait 1-0. Ils étaient quasiment en Ligue 1. Et sous le coup, finalement, ils sont fait égaliser, puis Angers a marqué 2 buts derrière. Et puis
Bon, par contre, la cause est entendue pour la relégation. 3, 17e avec 40 points, 18e Concarneau, 38, 19e Quevilly, Rouen, 35 points, et 20e et dernier Valenciennes avec 26 points. Ça ne changera pas pour les 4 derniers relégués en National 33e journée. Le Restart, c'est en vacances. Hein, ouais. À nouveau battu par Orléans 2-1. Victoire de Dijon devant Martigues 3-2. Par contre, Niort fait la bonne opération en battant Le Mans 2-0. Et défaite de Versailles contre le Gol FC 1-0. Le Restart, donc 62 points qui va remonter. Deuxième Martigues 56. Troisième New York 55. Donc là, ça va jouer pour la montée entre les deux équipes pour cette dernière journée. Versailles est 9e avec 46 points. Et on connaît les 6 relégués hein, donc de National. C'est Villefranche, Beaujolais, Avranches, Gol FC, Marignane, Gignac, Épinal et Cholet qui rejoindront la Nationale 2. Et justement, ça tombe bien parce que la Nationale 2, pas le Paris Atlético pour l'instant, à une journée de la fin, c'est le Paris Atlético qui remonte. Victoire devant Blois 3-0. 10 matchs sans défaite pour le Paris Atlético. 6 victoires, 4 nuls. Et bah, ils sont à égalité avec La Roche-sur-Yon, mais avec un goulavrage particulier favorable.
Ah, là, c'est
ouais,
parti.
Ouais. Ouais. Là, c'est le goulavrage particulier. Ouais, on finit avec les féminines. Hein. Il y avait une dernière journée, c'était cette semaine, mercredi. Donc là, bah, les équipes de tête, elles étaient encore là complètement en roue libre, hein, puisque Lyon a été battu par Bordeaux 2-1. Le Paris Saint-Germain a été battu par Reims 2-1. Et le Paris FC a été battu à domicile par Dijon 1-0. Ce qui n'a quand même pas empêché donc, d'avoir 2 demi-finales play-off entre le Paris Saint-Germain et le Paris FC. 2-2 après prolongation. 5-4 au tir au but pour donc le Paris Saint-Germain au Parc des Princes, la veille de PSG Strasbourg, et Lyon qui a écrasé Reims 6-0. Donc ça sera un classique, ça sera une finale Paris Saint-Germain-Lyon la semaine prochaine.
Il n'y a pas eu de prolongation.
Oui, il n'y avait pas de prolongation, oui, c'est vrai. Il n'y a pas de prolongation, donc Paris 2-2 et 5-4 au tir au but.
Ça, ça commence un peu à râler, bien sûr, c'est instauré en début de saison. Cette histoire de barrage, et puis quand tu arrives à jouer les barrages, tout le monde commence un petit peu à râler, notamment ce qui était assez fou, quoi, c'est que Lyon, par exemple, qui a terminé premier avec 11 points d'avance sur le PSG, peut encore aujourd'hui ne pas être champion de France, ça ouais. c'est une chose, mais aurait même pu aussi ne pas se qualifier pour une Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'ils sont 4, hein, et donc il y en a trois, donc il y en a un qui va rester sur le carreau. Donc finalement, tout est entre guillemets plutôt logique. Hein, avantage à Lyon, et qu'on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'un exploit du Paris Saint-Germain. Ouais. Et puis derrière.
Et rejoue la finale de Ligue des Champions chez les femmes la semaine d'après contre Barcelone, hein, Lyon. Hein. Donc exactement. Ils peuvent tout gagner ou tout perdre. Ouais, hein. Ils peuvent faire un doublé comme.
Ouais. Ou tout perdre. Et Paris Saint-Germain, qui a gagné la Coupe, mine de rien, qui a gagné la Coupe de France, bah, peut encore faire un doublé, mais ça a été quand même très chaud. Ils ont le Paris FC, je pense qu'ils peuvent quand même s'en vouloir de là, ils peuvent s'en vouloir du match. Que là,
allez, dernier petit mot avant de te retrouver avec donc au bout du foot avec Malik et son équipe, les trophées UNFP ce soir, vous allez un petit peu en parler, hein?
Bah, je crois pas que ça soit particulièrement prévu parce que comme ça en même temps c'est compliqué d'anticiper.
Mais on va rappeler que c'est les trophées UNFP
à 21h.
C'est-à-dire qu'on récompense les meilleurs joueurs de la saison de Ligue 1, Ligue 2, chez les féminines.
Ce qui est important, ce qui est important de préciser quand même, que trop de gens oublient ça, c'est que ce sont les joueurs qui votent.
Voilà.
Hein, ouais. Ce sont les joueurs.
Sauf
qui
le
votent.
Public qui vote pour le but.
Pour le but ouais. Ouais. Juste Fontaine. Là, qui... ouais. Mais sinon, ce sont les joueurs ouais. eux-mêmes qui votent.
Donc, alors, des fois, il y a un petit peu de décalage avec les
voilà.
journalistes.
On peut remettre. Quand on dit souvent, on parle de scandale parce qu'il n'y a pas, par exemple, la présence de Alexandre Lacazette. Certains entraîneurs, l'année dernière, il y avait des présences d'entraîneurs. On était un peu surpris, même cette année en Ligue 1, de voir par exemple Lucas Eisner dans qui est nommé. Bon, bah, c'est les entraîneurs qui votent, c'est-à-dire que là, ils sont 19.
Il n'y a même pas Pierre Sage en plus.
Voilà, il n'y a pas Pierre Sage, par exemple. Voilà. Ouais. Il faut bien. Savoir que ça a été fait quand même il y a à peu près 2 mois, je crois.
Très bien. Merci, messieurs. Merci à nos invités. Voyez,
ouais, merci beaucoup.
À très bientôt.
À très bientôt.
Hein. Merci voilà. à vous tous.
Et puis, on va remercier Jason et Léonard pour donc avoir été aux manettes encore brillamment ce lundi soir. Pas d'émission la semaine prochaine, c'est la Pentecôte. On se retrouve. Tiens, c'est notre ami Dimitien qui sera avec nous dans 15 jours. Ah, on fera un petit bilan complet.
La qualité voilà. est assurée.
Voilà,
avec
très bien, bien, absolument. Et on le salue. Belle soirée à toutes et à tous. On termine en musique et on laisse le relais à Malik et toute la team.
Bonne soirée.
À toutes et à tous.
Faith.